aujourd'hui à Rencontre Spirituelle, nous avons encore plusieurs saints, dont Sainte Madeleine Sophie Barra, qui est décédée en 1865, et qui était une femme remarquablement cultivée, une femme audacieuse, une femme toute jeune aussi, qui s'est décidée à faire des choses extraordinaires de sa vie, mais des choses concrètes et des choses animées par une volonté exceptionnelle. Une femme qui a passé à travers la Révolution française et qui a vécu très longtemps. Elle est morte en 1865, je vous l'ai dit, et qui a été canonisée en peu de temps. Elle a fondé les Sœurs du Sacré-Cœur, celles qu'on appelait il n'y a pas si longtemps les Dames du Sacré-Cœur, de grandes éducatrices qui se sont répandues à travers le monde. Et nous allons aussi parler d'un laïc, un des nombreux saints Jules. Mais c'est peut-être le plus intéressant, c'est un saint très ancien dont on a le procès. C'est un martyr, un soldat qui était à la retraite, alors ça peut intéresser et les retraités, et les laïcs, et évidemment tous les saints Jules. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à mon frère Jules. Et aussi, nous parlerons de Saint-Germain de Paris, qui a fondé la fameuse abbaye de Saint-Germain-des-Prés, que la plupart des gens connaissent. Particulièrement ceux qui sont allés à Paris vont toujours à l'église Saint-Germain-des-Prés, hein, n'est-ce pas? C'est dans le 6e arrondissement, près du Café de Flore et près de tout ce qui attire les foules et les touristes. Et alors, c'est sur le boulevard Saint-Germain, c'est toujours le même nom, Saint-Germain de Paris, un moine bénédictin. Si nous avons le temps, nous reviendrons un peu sur Saint-Augustin de Canterbury. Il y a des gens qui ont trouvé que je l'avais escamoté, j'étais allé un peu vite sur ce grand saint qui est le fondateur de l'Église d'Angleterre. Madeleine Sophie Barra. C'est du feu, Sainte Madeleine Sophie Barra. Le feu, on peut dire que c'est le symbole de son âme ardente, puis de toute sa charité. Elle a vraiment... elle est née dans le feu, c'est curieux. Elle est née dans la nuit du 12 au 13 décembre 1779, donc à peine une dizaine d'années avant la Révolution française. Puis il y a un violent incendie qui a éclaté chez ses voisins. Les voisins de son père, Jacques Barra, rue du Puy-Chardon à Joigny, dans l'Yonne. L'Yonne, c'est là qu'est l'abbaye de la Pierre-Quivire. C'est un centre auquel on revient souvent. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses extraordinaires qui sont arrivées dans l'Yonne et dans les environs de l'Yonne, n'est-ce pas, à Auxerre, à Avallon. C'est un centre du christianisme très ancien et aussi très moderne. Et cet événement tragique de cet incendie a impressionné vivement la femme de Jacques Barra, la mère de Madeleine Sophie Barra, qui s'appelait Marie-Madeleine Fouffé, F-O-U-F-E, accent aigu, et elle a mis au monde sa petite-fille plusieurs mois avant la date attendue, c'est-à-dire donc que Sainte Madeleine Sophie Barra était non seulement un enfant prédestiné, mais un enfant prématuré, un bébé fragile. Ce foyer, qui était un foyer modeste, c'était des vignerons. Il y a beaucoup, beaucoup de vignes dans ces environs. Hein. On fait du bon vin là-bas. Et ils avaient déjà deux enfants. Il y avait Louis, qui avait 11 ans, et Marie-Louise, qui était plus jeune d'une année seulement. C'est donc dire que la petite Madeleine Sophie est née 10 ans après la deuxième enfant. Et elle paraissait si chétive que l'on crut vraiment que sa vie était en danger. Elle a donc été baptisée le matin même de sa naissance. Je vous rappelle qu'on baptisait très tôt. C'était qu'on avait une conception un peu curieuse du baptême. Le baptême était presque un acte magique. Un acte magique qui, non seulement chassait le démon qui possédait cette âme, mais qui permettait à l'enfant d'entrer au ciel, car sans ce passeport, Dieu ne l'aurait jamais reçu, et il aurait abouti au limbe. cette façon de penser est grandement remise en question dans l'Église. Je vous en fais grâce, je vous conseille donc de lire des livres sur le baptême et sur le vrai sens du baptême qui nous fait enfants de Dieu et qui permet aux oreilles, si on peut dire, de notre cœur, d'entendre la parole de Dieu et de l'assimiler, d'entendre vraiment l'Évangile et d'en vivre. Le baptême permet d'acquérir par la présence plus forte de l'Esprit-Saint en nous, eh bien, de mettre en pratique ces paroles que l'on entend et de déboucher ainsi sur un désir de recevoir l'Eucharistie et d'être vraiment membre de cette Église qui est le corps vivant, mystique du Christ. Et alors, on a choisi comme parrain pour cet enfant son frère qui avait 11 ans, Louis, n'est-ce pas? Et qui a inauguré très jeune, on peut dire, une espèce de paternité spirituelle sur l'enfant. Parce que il désirait être prêtre. Et quand il est devenu prêtre, alors que sa sœur était encore adolescente, eh bien, il l'a grandement influencé, peut-être un peu trop sévèrement. Et elle, Madeleine Sophie Barra, était d'une nature fougueuse, mais elle était douée d'une grande délicatesse de cœur, ce qui lui a permis souvent de consoler sa pauvre mère des souffrances qui lui venaient de son mari. Ça arrivait dans ce temps-là, ça arrive encore aujourd'hui. Et Madeleine Sophie Barra a été admise dès l'âge de 10 ans à faire sa première communion, ce qui était, je vous le rappelle, exceptionnel à l'époque. C'est l'âge actuellement où l'on donne la première communion à nos enfants. Il n'y a pas si longtemps, c'était 5 ou 6 ans ou 7 ans. Et au cours des années suivantes, elle a donc été soumise par son frère Louis, qui était séminariste, à une rude discipline morale et intellectuelle. Et malgré les critiques dont les Barras ont été objets de la part du voisinage, puis par une disposition que l'on peut dire obligé de reconnaître, n'est-ce pas, mais il y avait une intervention de Dieu dans la formation de cet enfant et cette future fondatrice de ce qu'on appelle la Société du Sacré-Cœur, c'est-à-dire les Sœurs du Sacré-Cœur, elle a reçu une initiation, même littéraire et scientifique, très sérieuse grâce à son frère, qui rêvait d'en faire une femme à l'égal des hommes, quoi. Il voulait que cette petite sœur à lui soit aussi intelligente, aussi brillante, aussi savante que les hommes. Pourquoi pas? Il était en avance de 2 siècles, on peut dire, sur son temps. En tous les cas, en avance de 100 ans. Et puis, Madeleine Sophie, pendant la Révolution française, faisait ses délices de Virgile et d'Homère. Et son frère aîné, l'abbé Barra, qui avait été ordonné prêtre en 1795, et parvenu à arracher sa sœur à la campagne, à Lyon, où elle grandissait, à Joigny, malgré les objections de leur mère, puis il a amené sa sœur, sa jeune sœur, à Paris, pour qu'elle complète ses études. Et on était vraiment en pleine révolution, hein. Son frère prêtre, Louis, célébrait la Sainte Messe dans un logis qu'il habitait avec sa jeune sœur, rue de Touraine. Et Sophie a complété sa culture par l'étude des langues vivantes, ce qui était très exceptionnel pour une jeune fille à l'époque. Elle a appris notamment l'espagnol. Puis elle faisait également chaque jour, sous la main de fer de son grand frère, plus ample connaissance avec ce qu'on peut appeler une certaine souffrance psychologique, avec la croix. C'est une voie si austère qu'elle avait trouvée avec son frère, que c'est là qu'elle a découvert le secret d'une certaine grâce qui est très peu connue aujourd'hui, c'est rejeté. C'est la grâce d'une soumission positive. Puis, la grandeur d'âme qui se développe dans l'humilité. C'est très peu connu aujourd'hui. On méprise tout ça. Mais je crois que c'est vrai. Et que dans une profonde humilité, on grandit. Parce qu'on reconnaît vraiment et la grandeur de Dieu, et les grandes qualités des gens qui nous entourent. Si on est orgueilleux, prétentieux et fat, on ne se rend même pas compte des qualités profondes et merveilleuses de certaines personnes qui nous entourent, et surtout, on ne reconnaît pas la beauté, la grandeur, ce qu'on appelait autrefois la magnificence de Dieu. Alors si bien que Madeleine Sophie Barra est devenue certaine à un moment donné de sa vocation à la vie religieuse, elle était jeune encore, hein, et elle a songé de se faire sœur converse, tout simplement, malgré toute son instruction, chez les carmélites. Mais en 1800, elle était encore jeune, 20 ans. Eh bien, l'abbé Barra fut mis en relation avec le père Varin, un jésuite remarquable. Et ce père Varin avait cru pouvoir fonder la Société du Sacré-Cœur, qui était destinée à l'éducation des jeunes filles. Les jeunes filles qu'on dit les jeunes filles du monde. C'est une façon un peu jésuite de regarder les choses. Hein. Éduquer les jeunes bourgeoises ou les jeunes aristocrates afin d'en faire des jeunes femmes remplies de l'Évangile. Tant de congrégations ont été fondées pour élever les pauvres, les abandonnés, les filles des campagnes, les filles des ouvriers. Il est très bien aussi de penser aux autres et de faire que celles qui auront peut-être du pouvoir dans la société soient de véritables croyantes. Et le père Varin, jésuite, songeait à faire cela, et Sophie Barra est passée sous sa direction spirituelle, une direction beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus nuancée que celle de son frère Louis, qui était prêtre. Et ce jésuite a enthousiasmé bientôt l'âme de feu de Madeleine Sophie Barra, en lui faisant entrevoir un apostolat pour permettre de restaurer, de faire une restauration spirituelle, où elle aurait pu mettre à profit toutes ses connaissances, sa culture, puis se déclencher à plein cœur. Elle a été pressée par de vives exhortations, n'est-ce pas, à se vouer à la cause du Sacré-Cœur, car la dévotion du Sacré-Cœur se répandait de plus en plus, la dévotion au cœur plein d'amour de Dieu. Et Madeleine Sophie a obéi à la volonté de Dieu, et donc la Société du Sacré-Cœur était virtuellement fondée. Ce grand événement s'est passé dans le modeste appartement de la rue de Touraine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où son frère et elle vivaient. Et cet événement a reçu sa consécration le 21 novembre 1800. Elle n'avait pas encore 21 ans. Elle allait avoir 21 ans le mois suivant. C'est jeune pour participer à la fondation d'une congrégation, mais c'est une femme de caractère, une jeune catholique intelligente, qui a du cran, des capacités. Et ça s'est fait en la présentation de la Sainte Vierge, le jour de sa fête, le jour où la fondatrice et ses compagnes, quatre filles seulement, ont fait leur offrande au cœur de Jésus. Alors les premières mères, on les appelait des mères, hein, étaient au nombre donc de cinq, et d'une seule voix, elles ont défini leur esprit qui était la générosité. Et les mémoires du temps nous rapportent d'elles cette résolution que je trouve très belle. C'est dans le style du temps, il faudrait bien y penser aux mots, c'est un peu spécial. Voici ce qu'elles déclarent, ces femmes, ces jeunes femmes, « nous convîmes ». On a convenu, en d'autres termes. Nous convîmes de bannir de chez nous ces petitesses de couvent, ces retours d'amour propre. Le Sacré-Cœur de Jésus ne veut que des âmes grandes. Donc, elle ne voulait pas être comme, malheureusement, certaines sœurs qui sont acharnées sur des petites affaires de couvent. Non, pas du tout. Elles ne veulent pas de ça. Elles veulent être comme certaines autres sœurs qui sont remarquables, qui ont le cœur large et une intelligence profonde. Elle voulait pas de retour d'amour propre, des petites bébelles, des petites insignifiances. Non, elles veulent, avec le Sacré-Cœur de Jésus, être de grandes âmes au cœur généreux. Alors les fondations se font de 1801 à 1810 dans un premier laps de temps. Et en 1801, la Société du Sacré-Cœur a obtenu la direction d'un pensionnat. Ça commence à Amiens, en France. Et la petite communauté vivait dans la pauvreté, l'obéissance, la générosité. Et Sophie dirigeait les classes supérieures. Elle avait beaucoup d'instruction déjà. Elle était toute jeune. Et elle fit profession religieuse le 7 juin 1802. Donc, à 21 ans. Elle fut, peu après, et malgré sa répugnance, elle a été nommée supérieure supérieure à 23 ans. Imaginez. Alors le père Varin, le jésuite, qui avait projeté, lui, son côté, une fondation à Grenoble, dans un site aux horizons grandioses. C'était un monastère, Sainte-Marie d'en haut, qui gardait des souvenirs de Saint-François de Sales, puis de Sainte-Jeanne de Chantal, la grande amie de Saint-François de Sales. Alors, Madame Barra, c'est comme ça qu'on appelait ses sœurs. Les sœurs de Sacré-Cœur, on les appelait Madame. Comme on fait aujourd'hui, d'ailleurs. De plus en plus, on présente les sœurs sous le titre de Madame. Pourquoi pas? C'est beau aussi, le mot de sœur. Mais en tout cas, Madame Barra a été secondée dans ce supérieurat par Madame Duchesne, dans laquelle brillait, comme elle, une vertu de force. Et l'un des mots d'ordre de Madame Duchesne, c'était « sérénité immuable, douceur souriante au milieu des pires contradictions ». Alors, depuis la fondation de Grenoble, la société comptait deux maisons. Il fallait une supérieure générale, donc ce fut Madame Barra qui a reçu cette charge, elle, le 18 janvier 1805. Et dès le mois de juin 1806, eh bien, cette mère générale, Madeleine-Sophie Barra, fut priée par le père Varin de se rendre à Poitiers pour faire une troisième fondation. On procédait très rapidement. Elle y forma un noviciat d'une dizaine de postulantes. Le 10 mars 1807, l'empereur Napoléon a approuvé par décret la société. En 1808, ça procède très vite, on a commencé à 1801, Poitiers avait déjà une filiale à Niort. Hein? Les débuts de cette quatrième fondation se firent dans le dénuement. On craignait pas la pauvreté. On y ouvrit une école gratuite qui rassembla 60 élèves et un pensionnat qui ne compta d'abord que 2 enfants. Mais cette maison que Madame Barra avait décidé de fermer faute de pensionnaires, eh bien, ça, elle est restée car elle a prié devant Saint-Sacrement. Puis elle est sortie de là en disant aux sœurs que l'on continue, et c'est devenu une grande maison. Pour ce qui est des constitutions, ben en 1815, donc 15 ans plus tard, après la fondation, mais les constitutions qui étaient élaborées par le père Varin, puis la fondatrice, mère Madeleine-Sophie Barra, qui étaient élaborées dans la souffrance, la prière, mais furent produites. Et en voici quelques dispositions, des positions les plus essentielles. C'est le but de la société et la glorification du Sacré-Cœur par la sanctification personnelle et le salut du prochain. La société comprend des religieuses de cœur et des sœurs converses. Les religieuses institutrices font le vœu de se consacrer à l'éducation des jeunes filles. La supérieure générale est nommée à vie et elle est assistée d'un conseil. Et la lettre des constitutions est indispensable, mais c'est surtout l'esprit qui fait vivre un institut. Or, mais les fondateurs de cette société du Sacré-Cœur étaient animés d'un dévouement passionné aux intérêts de l'amour divin. Hein? Avez-vous remarqué, comme depuis le début de cette série, on remarque souvent chez les saints cet intérêt pour l'amour de Dieu. Souvent, les catholiques d'aujourd'hui croient qu'on vient de découvrir que Dieu nous aime et que Dieu n'est pas ce juge abominable qui nous poursuit de ses jugements catégoriques et qui tue nos enfants, nos femmes, nos parents et puis qui passe son temps à nous plonger dans la souffrance et le quasi-désespoir. Pas du tout. On a toujours eu cette conception de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui leur a fait choisir à ses sœurs un si beau vocable pour la nouvelle congrégation. Et voici en quels termes la sainte Madeleine-Sophie Barra enseignait à ses filles l'esprit qu'elle devait entretenir et constamment réanimer en elle-même. Elle dit ceci, « Mon unique vœu est de vous voir répondre au dessein du divin cœur de Jésus et par là vous rendre propre à lui gagner des âmes. Je prie le Sacré-Cœur de remplir vos âmes de dévouement à sa gloire. » À sa gloire, c'est une façon de parler. Aujourd'hui, le mot gloire est mal compris. À sa gloire, ça veut dire à le remercier, à lui tendre les bras pleins, avec beaucoup d'amour. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et Madeleine-Sophie Barra continue en disant, si nous savions ce que c'est que d'être les épouses du cœur de Jésus, afin d'avoir le bonheur de faire connaître ce cœur divin, aucun sacrifice ne nous paraîtrait pénible. Elle continue, une épouse du Sacré-Cœur ne remplirait pas sa vocation si elle ne partageait pas le zèle brûlant qui dévorait le cœur de Jésus pour le salut des âmes. C'est beau. On dit ce qu'on voudra. Ces femmes, toutes jeunes, sont des femmes extraordinaires. Et ces dernières paroles visent surtout le second but, mais essentiel, de l'Institut. C'est l'éducation religieuse des jeunes filles de la société. De la société, ça veut dire les jeunes filles qui appartiennent à une certaine éducation, qui vivent assez à l'aise. Hein. On dira que c'est une éducation bourgeoise. C'est une éducation de jeunes bourgeoises, justement pour les empêcher de s'embourgeoiser et en faire des véritables chrétiennes qui servent la société, qui savent que ce qu'elles ont, elles doivent être mis au service des autres. Et en parlant de l'oraison, c'est-à-dire de la prière solitaire avec Dieu, elle dit, il ne s'agit pas seulement de nous sanctifier, il faut encore que nous travaillions à communiquer aux autres cet esprit d'oraison. Et Madeleine Sophie Barra excellait dans l'art de conduire les cœurs au cœur de Jésus. C'est son grand amour des âmes qui attirait tout le monde à l'amour infini de Dieu. Et la mère Barra avait des délicatesses inspirées par la charité pour toutes les jeunes filles qui l'approchaient. Sainte Madeleine Sophie était une vraie maman générale, dirait-on, surtout pour les plus petites. Elle ne pouvait plus parfois entendre de ce qu'on appelle son quartier général, elle pouvait pas entendre par les fenêtres les joyeux ébats de ses enfants sans descendre auprès d'elle. Puis là, elle se penchait vers elle, elle leur adressait des paroles affectueuses, elle disait, « Je vis pour vous, mes bons enfants, pour le salut éternel de vos petites âmes, et je passe mes journées loin de vous, que c'est si triste pour mon cœur. Alors me voici, je viens vers vous, et je vous aime. » Les fillettes se mettaient à genoux, l'entouraient de tous côtés. En d'autres circonstances, elle faisait preuve d'une prudente et habile discrétion. Elle savait comment les rejoindre. Ah, respectons l'enfance, honorons l'âme de cette petite créature faite à l'image de Dieu et qui a déjà le choix de ce qui est meilleur si l'on prend le temps d'éveiller sa raison et de faire opérer son jugement. C'est la véritable éducation, hein. Les enfants ont déjà le choix de ce qui est meilleur, dit Madeleine Sophie Barra. Et si l'on prend le temps d'éveiller leur raison pour le faire opérer leur jugement, qu'ils se servent de leur jugement, hein? C'est extrêmement sensé. Ça date du siècle dernier. Dans les nouvelles extensions, c'est absolument fabuleux. À partir de 1810, bien, c'est une croissance incroyable. À Beauvais, Lyon, Bordeaux, Le Mans, Autun, Besançon, Turin en Italie, Metz, Lille, Perpignan, Avignon, à Rome en Italie encore. Une mission fut même fondée en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. De très remarquables vocations affluèrent au Sacré-Cœur. La princesse russe, Galitzine, qui était une orthodoxe convaincue, a finalement cédé à la grâce qu'elle ressentait au fond de son cœur devant ses femmes. Elle a cédé, malgré toutes les grandes résistances de ses amis, elle s'est convertie au catholicisme. Au fond, elle n'a pas changé de religion, hein, on le sait. Nos frères orthodoxes croient la même chose que nous. Ce sont nos frères les plus près de notre cœur, et j'espère que nous sommes très près de leur cœur. Moi, personnellement, j'aime profondément l'orthodoxie. Or, cette princesse russe, en devenant catholique, pouvait donc entrer au Sacré-Cœur. Mais elle disait, remplie d'une énergie, d'une confiance toute surnaturelle, « Je veux pouvoir dire en arrivant à la porte du ciel, « Ouvrez-moi, j'ai obéi. » Alors, tant de bien se fit, et tant de bien aussi ne se fit pas sans de grandes souffrances. Madeleine Sophie Barra a dit un jour, « Je cueille les épines à pleine main. » Il y a eu une révolution en 1830. Elle avait 50 ans. Et ça a obligé la congrégation à se disloquer. Le noviciat a été transporté en Suisse, près de Fribourg. 2 ans plus tard, cette supérieure générale, Madeleine Sophie Barra, est revenue en France. Elle examina de nouvelles demandes de fondation. Elle a visité les maisons du sud de la France. Puis, elle s'est rendue à Rome. Non sans faire une halte à Turin où un médecin l'a guéri d'un mal de jambe qui était dû à une chute. Et puis le pape Grégoire XVI est venu inopinément lui faire visite. Il a témoigné son grand désir qu'il avait de voir prospérer son institut des Sœurs du Sacré-Cœur, les Dames du Sacré-Cœur, comme on disait. dont la règle, lui dit-il, est l'œuvre de Dieu. Vous savez que la règle était très inspirée de la règle des jésuites. En somme, on peut dire que les Sœurs du Sacré-Cœur sont un parallèle des jésuites. Alors, elle a installé son noviciat à Sainte-Rufine. Rump, elle est rentrée à Paris. Et sa charge l'obligeait de nombreux déplacements. Elle s'est fatiguée énormément. Énormément. C'est terrible de penser qu'elle pouvait mourir encore assez jeune. Et elle avait des accros de santé. Elle fondait sans relâche. En 1836, c'était Bruxelles, Marseille, Nantes, Tours. En 1839, comptait 41 maisons, dont 27 en France. Et on a cru bon de procéder à une adaptation de ces règles à celle de la Compagnie de Jésus. Et Mgr Affre, archevêque de Paris, déclarait d'elle... C'est une sainte. En 1844, la paix établie au sein de la société a permis l'extension du Sacré-Cœur en Algérie, en France, à Laval, Montpellier, Nancy, en Italie, en Galicie, en Angleterre, en Espagne. On sait qu'ils sont venus au Canada. C'est absolument fabuleux. C'est vraiment une sainte admirable, extraordinaire. Hein? Et elle a pris possession à Paris de l'antique couvent des Feuillantines, puis tant de labeurs ont achevé de l'épuiser. Elle était atteinte d'une congestion cérébrale. Elle a perdu l'usage de la parole, puis elle a expiré à Paris le 25 mai 1865, en la fête de l'Ascension, à 11h du soir. Et le coffret de ses notes intimes était vide. Elle avait tout brûlé. Elle a légué à ses filles un seul billet. C'est une exhortation à la générosité, à l'immolation, jusqu'au dernier soupir. Et la mère Barra laissait près d'elle le rayonnement persistant d'une sainte et l'exemple d'une grande éducatrice hors pair. Elle a travaillé toujours à cultiver en son âme les qualités, les vertus qu'elle voulait former dans les autres. Elle déclarait « Nous ne formons que ce que nous sommes ». Le 2 octobre 1893, donc il y a juste un peu plus de 100 ans, n'est-ce pas? 28 ans après sa mort, il y eut une première ouverture du tombeau à Conflans, en France, alors que son corps avait été transporté à Jette-Saint-Pierre près de Bruxelles. Eh bien, on mit dans une châsse le corps qui était intact. Et lors de l'exhumation qui avait précédé le 27 mai 1907, les médecins avaient trouvé le corps si bien conservé qu'ils avaient pu le transporter sans difficulté. On put soulever les bras, incliner le buste. Le corps était desséché, d'accord, bruni, mais entier. Et le corps n'a pas été touché. Hein. Le corps de Sainte Madeleine Sophie Barra existe donc dans son entier. Il n'y a pas de relique, comme on dit, ex ossibo, c'est-à-dire à partir des os. On n'a pas prélevé des morceaux d'os. On a cependant prélevé des parcelles du cuir chevelu et des ongles. C'est assez spécial, hein? Ce sont de curieuses reliques. Et la béatification date du 24 mai 1908, hein? Canonisation qui eut lieu le 20... Et la canonisation, elle a eu lieu le 24 mai 1925. Hein? Alors, on a obtenu de nombreux miracles. Hein? Le diocèse de Sens a créé en 1927 une association des écoles libres Sainte-Madeleine-Sophie. C'est une association qui dure encore en faveur des écoles catholiques, car elle a su mettre en valeur la grandeur et l'importance, à mon sens, des écoles véritablement catholiques. Je parle pas des écoles catholiques qui n'en ont que le nom, là. Je parle des vraies écoles catholiques où on s'est enseigné avec intelligence les profondeurs du christianisme. Dans chaque maison, la société se trouve un oratoire, hein, de la Sainte Fondatrice. Et les religieuses vouent un culte fervent à leur fondatrice. Quant aux élèves du Sacré-Cœur, elles confient volontiers, dit-on, jusqu'à tout récemment tout le moins, leur personne, leur famille à Sainte Madeleine Sophie. Elle l'invoque même, dit-on, pour leurs examens, en déposant sur son autel leur livre ouvert à la page où elle désire être interrogée. Je trouve ça assez sympathique, lorsque les circonstances s'y sont prêtées. Mais ce culte des élèves du Sacré-Cœur s'est étendu à d'autres collèges. Et ainsi, son culte, en raison des fondations du Sacré-Cœur, s'est répandu dans le monde entier. Les maisons du Sacré-Cœur, en Amérique, aux Indes, en Papouasie même, il y a des postes qui portent son nom, des conversions qui sont opérées. Même en Papouasie, en Inde, etc., il y a beaucoup de sorciers qui se sont convertis sous l'influence de la pensée ou des prières de Sainte Madeleine Sophie Barra. Les miracles, d'ailleurs, de Sainte Madeleine Sophie sont très, très nombreux. Je vous en cite quelques-uns. En 1867, Nancy Balrowell, une fillette de 11 ans de Saint-Louis aux États-Unis, a été guérie d'une coxalgie aiguë, c'est-à-dire d'une ostéoarthrite tuberculeuse de la hanche. Et ce miracle fut retenu pour la béatification de Madeleine Sophie Barra. Puis en 1912, une religieuse du Sacré-Cœur, âgée de 38 ans, était guérie instantanément d'une déviation de la colonne vertébrale qu'elle avait contractée depuis l'âge de 11 ans. Ça déformait son buste. Ça occasionnait des douleurs terribles aux membres et à la tête. Cette religieuse a été guérie le 27 juillet, le soir de ce jour, en 1912, et elle dit que Sainte Madeleine Sophie elle-même lui est apparue au moment du miracle. Ce miracle fut adopté pour la canonisation. Sainte Madeleine Sophie apparut fréquemment à une sœur coadjutrice du Sacré-Cœur. Certains d'entre vous s'en souviendront, Sainte Josepha Menendez, n'est-ce pas? Entre 1921 et 1923, je me souviens de ses livres « Un appel à l'amour » qui était extrêmement populaire, qui avait été publié aux éditions de l'Apostolat de la prière à Toulouse en 1944. Madeleine Sophie Barra, grande sainte du 19e siècle et toujours une grande sainte, même pour notre 20e siècle. Et maintenant, nous allons parler de Saint-Jules. J'ai un frère, comme je vous ai dit, qui s'appelle Jules, et que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup influencé dans mon enfance par sa vie spirituelle, sa fidélité à la messe quotidienne, son amour des plus pauvres. Et quand j'ai adopté, il y a 25 ans, un pauvre malheureux, un itinérant, j'en ai fait mon fils. Mon fils aimait beaucoup son oncle Jules. Il sentait chez son oncle Jules beaucoup de tendresse. Et c'était samedi, le premier anniversaire des funérailles de mon pauvre fils, décédé à 40 ans. Et je veux rendre hommage ainsi à mon fils et à mon frère. En parlant de ce Jules qui est un laïc, un retraité comme mon frère. Et c'était... Il a été tué... sous galère, n'est-ce pas? Il y a eu là une persécution épouvantable dans l'Empire romain contre les chrétiens à la fin du IIIe siècle. C'était l'épuration de l'armée. On voulait faire sortir de l'armée tous les chrétiens. C'était au retour d'une expédition contre les Perses, contre les Iraniens. Il s'agissait d'abord d'en exclure les chrétiens, mais dans de nombreux endroits, les agents de l'empereur ont voulu aller plus loin, ont voulu contraindre les chrétiens à sacrifier aux idoles. Et ils ont décidé d'exécuter ceux qui refusaient. Alors il y a eu de nombreux martyrs, dont Jules. Parmi les martyrs, on connaît des martyrs aux noms très, très étranges. Je vous les donne quand même, ça pourrait vous amuser peut-être, mais ce sont quand même des saints, hein? Des gens qui ont eu un courage admirable. Et c'est parfois les noms que l'on donnait dans notre jeune temps à certains frères enseignants. Nous étions surpris de voir que certains frères portaient des noms curieux. Mais c'était des noms de saints, inconnus, mais de grands saints, qu'on pouvait retrouver grâce aux bollandistes, grâce aux ceux qui ont fait l'histoire de la sainteté dans l'Église. Alors voici les noms, Pasicrate, Valencien, Ézéchius, Martien, Nicandre et Jules. Mais les récits de leurs martyrs ont été réunis après leur persécution et ont été perdus, sauf le récit de Jules, qui nous est parvenu, qui inspire confiance aux meilleurs critiques. Je vous le lis, c'est pas très long. Je l'ai élagué, d'ailleurs, j'en ai supprimé des passages un peu trop complexes, parce que c'est pas facile de traduire ces textes latins, n'est-ce pas? Alors, au temps de la persécution, Jules fut arrêté et amené devant le président Maxime, et le président lui dit, Qui est celui-là? Du greffe, on dit, c'est un chrétien et il ne veut pas obéir. Alors le président lui dit, comment t'appelles-tu? Il répond, Jules. Que dis-tu, Jules? Est-ce vrai ce qu'on dit de toi? Et Jules répond, oui, je suis chrétien. Je ne puis me dire autre que je ne suis. Je suis chrétien et je ne peux pas faire ce que tu veux. Il ne faut pas que je renie mon Dieu vrai et vivant. Alors qu'y a-t-il de mal à offrir de l'encens au Dieu, à s'en aller? Et Jules répond, je ne peux paraître infidèle à mon Dieu. Dans votre armée où j'ai servi pendant 26 ans, je n'ai jamais été considéré comme un criminel ou un querelleur. Sept fois j'ai été à la guerre. Le chef ne m'a jamais vu en faute. Et maintenant, penses-tu que moi, qui ai été trouvé fidèle dans de moins bonnes actions, tu puisses me trouver infidèle dans de meilleures encore? Maximin lui dit, « Dans quel corps as-tu servi? » Et Jules répond, « Dans la milice, je suis vétéran. » Le juge lui dit, « Jules, je vois que tu es un homme sage et grave. Immole donc au Dieu pour en recevoir une grande récompense. » Et je lui dis, « Je ne ferai pas ce que tu désires. Je ne peux nier Dieu. C'est pourquoi, rends donc ta sentence contre moi. » Le juge lui dit, « Si tu ne sacrifies pas, je te ferai couper la tête. » Et je lui réponds, « Tu as bien pensé, c'est pourquoi je te le demande. Je te prie de réaliser ta pensée et de donner une sentence contre moi pour accomplir mes désirs. » Et le juge lui dit, « Si tu ne te repens pas et ne sacrifies pas, tu seras livré selon ton désir. » Et je lui dis, « Si j'ai mérité de souffrir cela, une gloire éternelle me restera. » Et on lui dit, « On t'a conseillé ainsi ? Mais si tu souffrais pour les lois de la patrie, tu en aurais une gloire perpétuelle. » Et Jules lui dit, avec beaucoup de courage, « Je souffre certes pour des lois, mais pour des lois divines. » Et le juge lui dit, « Celles qu'un homme mort et crucifié vous a données ? Vois comme tu es fou. Tu crains plus un mort crucifié que des rois vivants. » Et Jules lui dit, « Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Ce même Christ est Dieu et demeure dans les siècles des siècles. Si quelqu'un l'a reconnu, il aura la vie éternelle. Celui qui l'aura nié aura la peine éternelle. » Alors le juge lui dit, « J'ai pitié de toi et te donne le conseil de sacrifier vite et de vivre avec nous. » Et Jules finalement lui dit, « Si je vis avec vous, ce sera la mort pour moi. Si je meurs en présence du Seigneur, je vivrai éternellement. » Et le juge lui dit, « Écoute-moi et sacrifie, de peur que, comme je te l'ai promis, je ne te fasse tuer. » Et je lui dis, « J'ai choisi de mourir pour un temps afin de vivre éternellement avec les saints. » Et ainsi, Maxime, le président, donna sa sentence en disant, « Jules, ne voulant pas obéir aux édits, recevra la sentence capitale. » Quand il fut conduit au lieu habituel, tous l'embrassèrent, et un certain Nézikius, qui était un soldat chrétien et le gardait, disait au saint martyr, « Je t'en prie, Jules, remplis ta promesse avec joie et reçois la couronne que le Seigneur a promis de donner à tous ceux qui se confient en lui. Et souviens-toi de moi, car moi aussi je te suivrai. Salue nos frères Pasicrate et Valencion, serviteurs de Dieu, qui nous ont déjà précédés vers le Seigneur. » Jules, ayant embrassé Ézéchius, lui dit, « Hâte-toi de venir, frère. Ceux que tu as salués ont déjà, eux, entendu tes demandes. » Et prenant un mouchoir, il banda ses yeux, tendit son cou et dit, « Seigneur Jésus-Christ, pour le nom de qui je souffre, je te prie de daigner recevoir mon esprit avec tes saints martyrs. » Le ministre du diable, comme dit le vieux récit, frappant du glaive, donna la mort au bienheureux martyr. Le vénérable serviteur de Dieu fut martyrisé à Durostorum, dans la province de Mésie, le 6 des calendes de juin, soit selon notre calendrier, le 27 mai 297. Et Maxime, étant président sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, À qui soit la gloire dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ainsi se termine ce récit du martyr du laïc Jules, membre de la milice romaine, à la retraite. Voici maintenant Saint-Germain, évêque de Paris. Un homme étonnant, n'est-ce pas? C'est lui, comme je vous ai dit au début de l'émission, qui a fondé Saint-Germain-des-Prés à Paris, et qui est un homme très intéressant. Sa vie a été écrite par un poète, qui était évêque, aussi évêque de Poitiers, le fameux Venance Fortuna. Il a écrit le premier, la vie vraiment admirable de Saint-Germain, évêque de Paris. Il en parle d'ailleurs en des termes si avantageux qu'on n'a pas de difficulté à égaler Saint-Germain au plus grand saint de l'Église, n'est-ce pas? Il est né en Bourgogne, dans le diocèse d'Autun, de parents riches et catholiques. Et écoutez bien ça, on rapporte que sa mère fit ce qu'elle put pour lui faire perdre la vie dans ses propres entrailles. Elle n'en voulait pas de cet enfant. Elle a pris pour cela quantité de remèdes, comme on faisait pour avorter dans le temps. Et voyant qu'il n'opérait pas selon sa passion, elle se serrait le ventre contre la terre et frappait dessus pour étouffer cette petite créature qu'elle portait. Mais cependant, elle n'est jamais venue à bout de son dessein. Et sa fureur contre cet enfant n'a pas cessé, même après sa naissance. Et si elle n'a pas osé planter un poignard dans le corps de ce petit enfant, eh bien, elle a continué toujours de le maltraiter. Elle lui a été impitoyable. C'était vraiment une... Bien qu'elle était catholique, sa mère, elle était riche, mais elle était au fond une véritable païenne d'enfanter de cette façon-là, à mon avis, un enfant. Avez-vous lu, d'ailleurs, dans la presse, en fin de semaine, cet étonnant article au sujet de Nathalie Petrovski? C'est très beau. C'était dans le cahier B de la presse de dimanche. En première page, il y a une photo en couleur de Nathalie Petrovski qui est assez amusante d'ailleurs, puisque c'est intitulé Nathalie Petrovski, maman last call. Elle est devenue mère à la toute dernière minute, n'est-ce pas, de ce fameux junior dont elle nous parle dans la presse. Puis c'est écrit en gros caractères, avec un enfant à ses côtés, impossible de nier la vie, même si la mort est toujours là, dit-elle. Et à la fin de l'article qui lui est consacré à l'occasion de la parution de son livre « Maman, last call », et on peut pas dire que Nathalie Petrovski soit parfaitement une catholique exemplaire, et puis qu'elle soit à la tête des processions que l'on fait dans les rues avec des crucifix, c'est pas son genre, n'est-ce pas, Nathalie Petrovski? Je l'aime bien, Nathalie Petrovski, quand même. D'ailleurs, elle a écrit un très bel article lors de la disparition de Rencontres dans le Devoir. J'en profite pour la remercier. Elle dit donc ici, dans cet article, l'idée que la grossesse est un piège, que la vie devient une prison, elle dit, j'adhérais à ce discours-là. J'y croyais. Et j'ai attendu toutes ces années avant d'avoir un enfant et de m'apercevoir que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, même avec ma job très prenante. Étonnant. Étonnant, Nathalie Petrovski, qui dit ces choses absolument superbes. Alors revenons donc à notre bon ami Saint-Germain, qui est né à Autun, comme je vous ai dit. Et puis sa mère a voulu donc se débarrasser de son enfant. Mais celui qui allait devenir un saint a vécu. On l'a envoyé à l'école d'Avalon avec son cousin Stratistius, et la mère de ce cousin a voulu l'empoisonner pour ravir son héritage. Mais la servante s'est trompée et a donné le poison au cousin Stratistius, qui n'en est pas mort, mais qui n'en est jamais guéri. Il a quitté Avalon, ce cher Germain, s'est rendu à Loria, où il a vécu 15 ans, en menant une vie quasi monastique. Il a été nommé diacre, ordonné diacre, et 3 ans plus tard, prêtre, par l'évêque d'Autun. Germain a été nommé abbé d'un monastère important, Saint-Symphorien, ça peut nous sembler curieux, Saint-Symphorien d'Autun. Et Germain s'est fait remarquer par son austérité, sa rigueur. Bon, il était très généreux, moussi. Un jour, il restait plus de pain pour ses frères dans le monastère. Il avait donné tout le pain aux pauvres. Mais deux bêtes de somme chargées de pain sont arrivées le lendemain, suivies de chariots pleins de vivres de toutes sortes. Les moines se sont rassurés, dit-on. C'est possible que ces miracles arrivent. Ça arrive aujourd'hui, et je vous en raconterai des ces miracles sur la nourriture aujourd'hui, ou des maisons où on sacrifie tout pour les pauvres reçoivent tout à coup, de façon bien mystérieuse, la nourriture dont elles ont besoin. L'évêque de la région d'Autun n'appréciait pas toujours cet abbé de monastère qui était un ascète. Il fit même mettre en prison, et Venance Fortuna ne dit pas sous quel prétexte. Venance Fortuna, c'est l'historien, le poète qui a écrit sa vie. Et s'il raconte cet épisode, c'est parce que la porte de la prison s'est ouverte toute seule, dit-on, et que le saint ne voulut la franchir que lorsqu'il en a reçu l'ordre. En 552, le roi Childebert réunit à Paris au moins 6 métropolitains, 6 évêques et 21 évêques ordinaires. Des métropolitains, c'est des archevêques, et 21 évêques des deux royaumes de Paris et de Chalon-sur-Marne. Ces deux s'est séparé à l'exclusion du royaume de Soissons, pour prouver la déposition d'évêque de Paris. Et celui-ci, l'évêque de Paris, avoua un crime. On ne sait pas au juste ce que c'est. Donc, il s'est rendu coupable. Alors, il a fallu un nouvel évêque. Et puis, à cause de tout ça, mais finalement, Saint-Germain est devenu évêque. Et on a constaté qu'à cette époque, les aveugles étaient assez nombreux, n'est-ce pas? C'est une infirmité répandue. C'était la... Il y avait aussi une autre infirmité qui était la contraction de la main, les doigts se repliant dans la paume au point que les ongles pouvaient la transpercer. Et les maladies s'accompagnaient fréquemment de gangrène. Et assez souvent, mais on amenait à Saint-Germain des possédés aussi, qui n'étaient pas forcément des épileptiques. Et un jour, on lui présenta cet homme qui s'était livré à des rites magiques immoraux. Et dans deux cas au moins, le saint garda près de lui 7 jours un possédé pour avoir le temps de le guérir. Alors, il guérissait tous ces gens-là, c'était assez étonnant, dit-on. Germain employait le plus souvent des remèdes, dont le choix était dicté par le bon sens. Le plus usité fut l'huile qui servait à oindre les membres malades. Tout ça se passe au 6e siècle, dans les années 500. Germain utilisait, comme Jésus, sa salive aussi. C'est très, très étrange. Il y a des miracles qui se ressemblent beaucoup à Lourdes. On l'avait avec de l'eau qu'on buvait ensuite. Le patient léchait même un peu d'eau sur l'herbe. Très, très étrange. Que l'on voit dès le 6e siècle des choses que l'on rejetait au 19e siècle. Quand à Lourdes, la Vierge demande, n'est-ce pas, à Bernadette de poser certains gestes qui nous semblent très curieux, vous devez connaître, on y reviendra à la vie de Bernadette. Et alors donc, la mansuétude de notre Saint-Germain s'étendait à tous les prisonniers, sans exception. Quand il le pouvait, il les délivrait tous contre l'avis du juge. C'est ce qu'il fit à Avallon, à Rosé en Morvan, à Paris, à Orléans. Il a acquis la réputation de ne pouvoir être arrêté par aucun obstacle de bois, de pierre ou de fer. Ça tient presque à la légende. On ne s'étonna guère de le voir ouvrir miraculeusement la porte de l'église Saint-Gervais à Paris. Saint-Germain a libéré des esclaves de toute nationalité. Il avait pouvoir, dit-on, même sur les bêtes sauvages. Il avait guéri un homme mordu par un loup enragé, débarrassé une femme des ours qui ravageaient ses champs. J'ai l'impression qu'on exagère un peu, mais je crois que c'est une façon très médiévale de cette époque de raconter que cet homme répandait autour de lui la paix et savait libérer les gens de leurs chimères, de leurs troubles. Donc, Venance Fortuna, l'évêque de Poitiers, a glorifié Saint-Germain, évêque de Paris, comme thaumaturge, hein, comme homme qui fait de nombreux miracles. Mais il a aussi les affaires ecclésiastiques de cet homme, et il a administré son diocèse de façon absolument remarquable. En 567, Il a affronté à Paris le roi Charibert, qui pillait les églises et accumulait les liaisons irrégulières. Il a épousé deux sœurs à la fois, et Germain l'excommunié. Saint-Germain n'a pas tenu compte du pouvoir du roi. Il avait beaucoup de courage. Et comme ses contemporains et amis, un peu plus jeunes que lui, les évêques de Tours, de Poitiers et d'Auxerre, Germain a continué efficacement au développement du culte des saints de la Gaule. Hein. Et Saint-Germain est mort à Paris le 28 mai 576. En grande réputation de sainteté, il fut enterré dans l'église Sainte-Croix et Saint-Vincent qu'il avait fondée. Puis en 585, lors de l'incendie de Paris, un immense incendie, Paris est passé sous le feu très souvent, hein, il apparut pour libérer de leurs chaînes les prisonniers encore, qui se réfugièrent auprès de son tombeau. Et on dit que Saint-Germain fut si populaire que son nom supplanta dans l'usage les patrons primitifs de l'Église. Et le 25 juillet 756, donc deux siècles après presque sa mort, 180 ans plus tard, en présence du roi Pépin et de son fils Charles, âgé de 12 ans, le futur Charlemagne, eh bien le corps de Saint-Germain fut transféré de l'atrium dans le chœur, derrière l'autel de la Sainte-Croix. Et les reliques furent mises en sûreté lors des invasions normandes en 845 et en 863. Puis, en 1408, l'abbé du monastère, Guillaume, donna une magnifique châsse qui, en 1704, fut placée au-dessus du maître-autel. Elle a été fondue lors de la Révolution. Un quart de siècle après sa mort, le nom de Germain fut inséré au martyrologe. Et il est toujours considéré à Paris comme un très grand saint avec Sainte Geneviève.